Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, nous sommes installés dans le restaurant Le Feugerolles. Vous allez découvrir le parcours de vie d'un homme qui aujourd'hui s'implique pleinement dans le marché de l'emploi et dans l'économie du territoire ligérien. Optimiste, sans être idéaliste, venons à la découverte de Monsieur Laurent Vinault, qui s'occupe du crépi Loire-Haute-Loire. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Laurent Vinault, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette association, le Crépi?
Alors déjà, il faut savoir ce qui se cache derrière l'acronyme Crépi. Qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme Crépi? Il se cache un club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. De façon plus simple, c'est une association qui réunit des femmes et des hommes qui sont responsables d'entreprises, massivement d'entreprises PME et TPE de la Loire. Il y a quand même quelques grosses entreprises, mais massivement PME, TPE, et des femmes et des hommes qui se mêlent d'emploi, qui se disent donc, moi, responsable d'entreprise, il est de mon devoir, au nom d'un exercice sociétal bien compris, d'apporter ma contribution au plan d'un territoire, la Loire et la Haute-Loire, ma contribution en direction de toutes celles et tous ceux, jeunes comme moins jeunes, diplômés, pas diplômés, cadres, primo arrivants étrangers, qui sont en recherche d'une solution professionnelle. Pardon. Donc un crépi, c'est pas autre chose qu'une passerelle entre celles et ceux qui cherchent et le monde économique dans son acception, la plus large qui soit.
D'accord. Et comment les entrepreneurs de la Loire peuvent venir vous contacter ou vous découvrir?
Beaucoup viennent par le bouche à oreille, puisque un responsable d'entreprise, il fréquente aussi d'autres instances, il fréquente aussi d'autres responsables d'entreprise. Il a son réseau, ils vont déjeuner ensemble, ils vont évoquer des problématiques de recrutement, de gestion RH, de qualité de vie au travail. Donc, le bouche à oreille, beaucoup. Je dis bien le bouche à oreille. Il y a aussi toutes celles et ceux que nous on rencontre à travers les manifestations et notre vie quotidienne.
En parlant des manifestations, justement, quel type de manifestations vous proposez?
Alors, dans un crépi, il y a le crépi Loire-Haute-Loire, mais il n'y a pas que le crépi Loire-Haute-Loire. Il y a 16 crépis en France. Depuis 30 ans pour le plus ancien crépi, qui est celui de Toulouse. Donc c'est un réseau. Dans un crépi, la finalité est toujours la même, l'insertion professionnelle de tout public. Après, les moyens pour satisfaire cette insertion peuvent varier d'un crépi à l'autre. Ici, dans la Loire, on a deux axes majeurs. Du recrutement, on recrute peu ou prou chaque année 400-500 personnes pour les entreprises. Pour recruter, on rencontre du monde. On voit à peu près 1000 personnes chaque année. On ne sait pas parler des gens qu'on n'a pas rencontrés. Le CV, c'est un livret militaire, ça m'apporte pas grand-chose. Rencontrer la personne, échanger, lire à travers, écouter ce qui est dit, écouter aussi ce qui n'est pas dit, c'est ce qui me permet de renifler, si je puis dire, un peu comme un chien truffier, vous avez vu la longueur de mon nez, un peu comme un chien truffier, ça me permet de renifler ses qualités essentielles de correction, d'humilité, de goût de l'effort, d'envie d'apprendre, qu'on peut transformer en compétences. Donc d'un côté le recrutement, et puis après effectivement on a chaque année une quinzaine d'actions collectives, puisqu'elles vont concerner plusieurs personnes, que l'on initie, que l'on architecture, que l'on met en œuvre pour permettre à des gens de mettre un pied dans l'entreprise pour s'y faire intelligemment remarquer. Ces actions, elles ont des temporalités différentes, 24 heures pour la plus courte, 8 mois pour la plus longue. Notre outil, c'est toujours l'entreprise, et ces actions, elles permettent à ces personnes d'intégrer une entreprise, mais également de faire des stages, de visiter des sites mémoriaux, d'apprendre à respecter l'autre, d'apprendre le goût de l'effort, etc. Voilà. On construit des actions, mais qui reposent toujours sur ces postulats-là.
Très bien. Et pour faire très simple, comment vous pourriez vous positionner si on vous comparait, par exemple, à un cabinet de recrutement, une agence d'intérim et Pôle emploi? Vous vous situez comment par rapport à ça?
Alors, la particularité qu'on a, c'est qu'on est, sous forme associative, un club d'entreprise. Pôle emploi n'est pas un club d'entreprise. Une agence d'intérim n'est pas un club d'entreprise. Une mission locale n'est pas un club d'entreprise. Par contre, tous ces gens, qui sont aussi des partenaires, ils concourent au même objet social, c'est l'emploi ou l'insertion professionnelle. À ma perception, l'emploi relève de l'intérêt général. On ne peut pas se fâcher pour ce qui relève de l'intérêt général. Il ne peut pas y avoir de baronnie en disant « c'est mon chercheur d'emploi, c'est mon candidat à l'emploi, c'est mon territoire ». Donc, on se situe à côté d'eux, pas au-dessus, pas en dessous, mais à côté, on travaille en bonne intelligence, avec des moyens différents, mais pour atteindre un objectif commun.
Avec des moyens différents, vous nous avez dit, vous arrivez à recevoir jusqu'à 1000 personnes, vous faites 15 manifestations par an. J'imagine, deux questions derrière tout ça, j'imagine que ça demande des ressources, donc il y a forcément une équipe avec vous. Et deuxième question qui va avec, c'est quel est le modèle économique, comment l'association arrive à vivre aujourd'hui en mobilisant toutes ses forces?
Alors mon bon monsieur, les ressources sont faibles. Un crépi, il a cette particularité, j'insiste, notre outil de travail, notre force de frappe, notre artillerie, c'est l'entreprise. Au crépi l'oratoire, on a un socle de 150 entreprises fidèles et 200-300 entreprises partenaires. Notre outil, c'est l'entreprise. Les équipes crépi sont des petites équipes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 16 crépi. Vous additionnez les effectifs salariés de ces 16 crépi, ça fait 80 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de deux agences, de deux grosses agences Pôle emploi. Donc ce sont des petites équipes, ce qui nous oblige à être à la fois engagés dans le beau sens du mot, d'être réactifs et d'être polyvalents, c'est-à-dire d'être généralistes de beaucoup de choses et spécialistes de pas grand-chose. Ça, c'est la première chose. Quant au modèle économique, on a un modèle économique qui n'a pas varié depuis 30 ans, depuis que le réseau des crépis existe. Nous, on existe depuis 14 ans. On a 50% de fonds privés issus des cotisations d'entreprise. Et puis les 50% restants viennent de bailleurs de fonds institutionnels, l'État, la ville, la métropole, des fondations, voilà.
Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une actualité brûlante au sein du Crépi Loire-Haute-Loire ou du réseau Crépi global ?
Mais du réseau Crépi, il y a une actualité importante qui sera fêtée, célébrée le 12 juin prochain au Palais de la Porte Dorée à Paris. C'est les 30 ans du réseau des Crépis. Ça, c'est l'événement phare national. Et puis, au niveau du crépi Loire-Haute-Loire, on est à l'entame de 2023. On a cette année quelques belles actions à mettre en œuvre en direction des femmes, notamment avec l'action Rebond. Un exercice particulier également qu'on va faire avec le lycée hôtelier Le Renouveau. Des actions en faveur des primo-arrivants étrangers. Des actions également pour sensibiliser les chercheurs d'emploi ou les postulants à l'emploi au monde industriel. On a cette année, sur la quinzaine d'actions, 4-5 actions qui sont foncièrement nouvelles.
Maintenant qu'on commence à connaître un peu mieux le Crépi, l'association Crépi, on va essayer d'aller à la rencontre de Monsieur Laurent Vineau. Monsieur Laurent Vineau, vous êtes né en 1959. Dans quel contexte êtes-vous né ?
Alors, je suis né non pas dans la Loire, je suis né dans le département de la Haute-Saône, j'allais dire incidemment. Par contre, j'ai passé toute mon enfance et ma scolarité première jusqu'en terminale à Ambert, voilà, qui est une petite ville de 6000 habitants aujourd'hui, qui est nichée entre les monts du Forêt et les monts du Livradois. Et puis après, un cursus fac de droit à Clermont-Ferrand. Et j'avais eu un premier contact ici avec le département de la Loire, puisque je suis un ancien élève de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, le N3S, donc issu du concours externe. J'ai un premier début de carrière dans le milieu de la protection sociale, dans un régime qui est celui du régime des exploitants agricoles. Donc déjà, il y avait aussi à faire preuve d'altruisme ou de bienveillance, parce que c'était l'époque aussi des agriculteurs en difficulté, des plans de paiement échelonnés, des difficultés liées au monde agricole. Puis en plus, ensuite, une seconde partie de carrière qui s'est déroulée dans le milieu, qui a été beaucoup plus bref, dans le milieu industriel. Et puis depuis 14 ans, cette aventure, c'est une aventure, et c'est une belle aventure, au sein du Crépi Loire-Haute-Loire.
Et pour revenir à votre enfance, vous étiez qui ? Vous aviez trois sœurs ? Enfin, vous avez trois sœurs. C'était qui Laurent Vineau, le petit Laurent Vineau ?
Le petit Laurent Vineau.
À la maison, à l'école ?
Il était, alors à l'école, un élève...
Modèle,
je ne sais pas. Un élève normal, discipliné, qui a fait un cursus sans incident. Comment il était petit, il avait les cheveux frisés, ce qui n'est plus le cas, ils sont blancs aujourd'hui. Par contre, il était déjà mutin.
Ah ouais.
Oui.
Rebelle.
Non, mutin. Brilleur, mutin. Voilà. Avec beaucoup de sensibilité, je ne pense pas l'avoir perdu en avançant en âge.
Très bien. C'est resté ça le long de vos études, dans vos aventures professionnelles aussi ?
Cette sensibilité,
ouais.
Elle a toujours été là.
Toujours été là.
Toujours été
là. Et elle sera toujours là.
Et elle, ah oui. C'est pas à mon âge que je vais changer, mais elle a toujours été là. Je pense que c'est un des traits de mon caractère. Ouais. Une sensibilité profonde, exacerbée. Absolument, c'est vrai.
D'accord, d'accord. Mais ça se ressent un petit peu quand on vous voit. Quand on a préparé l'émission, je vous demandais si vous aviez des personnages, des mentors, des choses qui vous inspiraient. Vous m'avez dit, j'ai pas de mentor, il y a pas de personne en particulier. Par contre, des actes.
Oui, il y a des actes, des actes.
Qu'est-ce qui vous inspire alors ?
Ben, dans l'histoire, des actes qui ont été commis par des résistants, des maquisards, des actes, oui, des actes par des gens lambda, insignifiants a priori. Et qui ont, à leur hauteur, marqué une période de l'histoire. C'est pour ça que je dis que chacun, à sa hauteur, peut aussi apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est plus effectivement des faits d'histoire avec des actes, comme ça peut être aussi des actes de lecture, voilà, des passages, absolument.
Sans avoir l'ambition forcément de changer l'histoire, mais est-ce que c'est ce que vous retrouvez au Crépy, finalement ?
Je retrouve au Crépy... Si vous voulez, en France comme ailleurs, il y a, on parle beaucoup de solidarité, mais la solidarité nationale n'est que l'expression collective de la générosité individuelle. Et c'est cette générosité individuelle qui traduit à travers ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, celles et ceux qui sont engagés à nos côtés, mais c'est la même qui traduit, me semble-t-il, l'engagement d'une équipe Crépy qui a un véritable engagement. Ça ne veut pas dire naïveté. Il faut avoir un engagement raisonnable, c'est-à-dire qu'il soit accompagné de raison. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout changer. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas, qui est en lévitation perpétuelle. Mais par contre, ce sentiment, oui, d'être attentionné à l'autre est effectivement important. Mais je le redis, pas en pleine béatitude.
Est-ce qu'au cours de votre carrière et de votre vie personnelle, alors sans forcément rentrer dans les détails si vous voulez pas, mais est-ce qu'il y a eu des épreuves difficiles et si oui, c'est quoi qui vous a permis de rebondir ?
Ben, des épreuves difficiles, oui, il y en a eu, mais comme je pense pour chacun d'entre nous, sinon la vie ce serait un jouet d'enfant. Donc oui, j'ai eu des moments difficiles, j'ai connu à une époque de ma vie ce qu'on appelait le RMI, le revenu minimum d'insertion. C'est aussi sûrement pour ça que je sais de quoi je parle dans ce que je fais aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je sais, me semble-t-il, faire preuve de discernement par rapport au public que j'accompagne. Oui, des périodes difficiles, j'en ai, ce qu'on appelle des périodes de galère, j'en ai connu, oui.
Et c'est quoi qui vous a permis de rebondir ?
Eh bien, c'est
élément extérieur ou force personnelle ?
Je dirais, c'est sûrement pas de la psychanalyse, parce que je n'y ai jamais eu recours. Donc, foin de tout ça, c'est du bon amour familial, déjà de l'attention distillée par d'autres. Puis un matin, on se réveille en se disant, allez, bouge-toi les fesses.
Comment vous vous définiriez aujourd'hui ?
Je dirais comme un petit bonhomme, comme un petit bonhomme. Un petit bonhomme qui va, qui vient, de ci, de là. Voilà.
Pour aller un peu plus loin, vous parliez tout à l'heure de la responsabilité des entreprises. Donc, on parle beaucoup de contraintes environnementales, il y a l'aspect sociétal qui va vous toucher particulièrement. C'est une tendance de fond, c'est quelque chose qui commence un petit peu à s'imposer. Avant c'était quand même certains entrepreneurs qui étaient peut-être un peu précurseurs là-dessus. Maintenant, tout le monde en est conscient, mais c'est quand même une lame de fond qui arrive avec des choses qui, comme je disais, vont être imposées. Vous en pensez quoi de l'avenir par rapport à ça ? Est-ce que c'est pour vous, d'après vous, le rôle de l'entreprise de remplir cette responsabilité-là ?
Alors, premier point, c'est que souvent, on réagit dans l'urgence et par nécessité. En matière de responsabilité sociale de l'entreprise, qui est un des éléments ou un des pans du développement durable, c'est pas une idée neuve. Elle existe déjà depuis une petite centaine d'années. Il y a deux choses dans l'engagement de l'entreprise. Est-ce que c'est son rôle ? L'entreprise, elle a un rôle économique à jouer, qui n'est pas neutre. Mais l'entreprise, elle participe nécessairement à la vie du territoire, sa vie économique évidemment, mais également sa vie sociale. Vous savez, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, on ne parle pas d'autre chose de ce que l'on appelait avant un bon patron, le patronus, le patron. C'est-à-dire ce qui a été beaucoup illustré à travers le catholicisme social, défini par Marc Sanguier, que vous retrouvez dans des grands créateurs industriels, je pense à Michelin, avec ses jardins ouvriers, ses écoles, mais il n'y a pas que lui. Il y avait déjà au début du XXe siècle ce rôle économique et ce rôle social. Aujourd'hui, on l'a normalisé à travers des règlements concernant la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour moi, la véritable RSE, c'est vraiment celle qui va au-delà des textes, c'est-à-dire celle qui puise dans un état d'esprit, dans une série d'attitudes cohérentes. C'est pour ça que je dis que c'est pas l'apanage des grands. Chacun peut la faire à sa hauteur, qu'on soit une toute petite entreprise avec 2 salariés, qu'on soit une PME, voilà. Ça repose avant tout sur la disposition de l'individu.
Ouais. Rassurez-moi, vous en trouvez ?
Bien sûr.
Beaucoup.
Ah non, c'est pas une espèce en voie de disparition, je vous rassure. Non, c'est du tout. Du tout. Par contre, il faut leur expliquer, un peu comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir, que ce qu'ils font quand ils prennent un apprenti, qu'ils accueillent un stagiaire, qu'ils recrutent une personne, en passant par des canaux inhabituels de prescription, ça s'appelle de la RSE, ils ne le savaient pas, et ils vous disent, je ne savais pas, mais je le fais depuis longtemps.
Et est-ce que vous voyez des dirigeants, des entreprises qui viennent vous voir, et qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit, mais qui viennent vous voir parce que ça devient presque une obligation?
Oui.
Et si oui, c'est pas un jugement de valeur, bien évidemment, mais est-ce que vous arrivez à les convertir?
Alors, les convertir pour qu'ils deviennent des adeptes ou des prophètes, ça prend du temps. Mais par contre, je crois beaucoup à la pédagogie par l'exemple. D'ailleurs, s'ils viennent frapper à la porte du crépi, et ça arrive, ce ne sont pas des cas isolés, c'est bien effectivement qu'ils ont une ambiguïté, un doute à lever ou qu'ils sont en attente d'une explication ou d'un éclairage. C'est un petit peu comme dans la même démarche qu'avec un apprenti. Vous lui expliquez, vous lui montrez, il le vérifie, il l'essaye, et puis il voit effectivement, il revient sur ses propres contradictions.
Aujourd'hui, par rapport à ce que vous voyez du monde du travail, de l'emploi, peut-être par rapport aux autres crépis, comment vous pourriez définir le, entre guillemets, niveau de RSE de notre territoire ?
Enlevons cette appellation RSE. Mais il y a ici, dans la Loire, un engagement social, sociétal des entreprises qui est fort ancien, qui repose à la fois sur une tradition qui est celle de l'industrie de la forge comme de la mine d'ailleurs, qui a donné naissance à tout ce mouvement mutualiste, à la création de ces fraternels. Il y a toujours eu dans la Loire, par l'histoire et par l'outil de travail, ces notions d'entraide qu'on appelle aujourd'hui, de façon beaucoup plus contemporaine, responsabilité sociale et sociétale. Mais le terreau était favorable.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le crépi ou toute association comme ça, qui est un peu pas en marge, mais en parallèle du marché de l'emploi habituel, est-ce que vous pensez que, un, c'est parce qu'il y a des manquements quelque part, et deux, est-ce que c'est voué plutôt à disparaître ou plutôt à se développer par...
Alors, est-ce qu'il y a des manquements quelque part ? L'État-providence ne peut pas tout. L'État-providence ne peut pas tout. Mais l'État-providence ne peut pas tout aujourd'hui, pas plus qu'il ne pouvait tout avant. Pourquoi il y a eu les mouvements qu'on évoquait tout à l'heure, mouvement mutualiste, le mouvement des fraternels, des amicales. Il y a bien, quand on dit ces mots, fraternel, frater, frère, ce sont des notions extrêmement anciennes. Donc, un, l'État-providence ne peut pas tout. Et deux, je pense que, je le redis, un responsable d'entreprise, une femme, un homme responsable d'une entreprise, elle a un rôle social à jouer. Je veux dire, le territoire, c'est le niveau microéconomique par excellence. Et je pense qu'effectivement, le crépi, en France, vous avez des structures qui ont une mission de service public, une mission de service public, donc désigné par l'État pour réaliser cette mission. Et puis vous avez toutes les structures qui concourent, qui apportent leur concours à cette mission de service public. C'est le cas d'un crépi. Donc les structures comme le crépi, il n'y a pas que le crépi, elles ont, de mon point de vue, et compte tenu effectivement des circonstances aujourd'hui comme celles d'il y a 15, 20 ou 30 ans, ne peut qu'être, hélas, avoir vocation à continuer à exister et à continuer à se développer.
Hélas, c'est ça, vous dites, hélas, c'est un peu, si je compare au Resto du Cœur, on peut se vanter de se dire on a une association qui distribue de plus en plus de repas, génial, mais il y a aussi de plus en plus de besoins. C'est un peu ça que vous voulez dire?
Oui, ouais. Mais okay. Ça c'est sur l'aspect, j'allais dire, statistique. Ça c'est le hélas en termes de statistiques. Nous on est des petits, mais comme le dit très souvent notre président national, le réseau des crépis existe depuis bientôt 30 ans. Et le réseau des crépis, en 30 ans, il a remis à l'emploi durable, je dis bien durable, plus de 80 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Le Havre ou Cherbourg. C'est pas rien. Donc je dis hélas sur l'aspect statistique, mais derrière le hélas, il y a aussi tant mieux, parce que précisément le crépi, comme d'autres structures d'ailleurs, mais le crépi apporte aussi des méthodes et des mécaniques de recrutement différentes du recrutement classique.
Vous avez la chance, entre guillemets, de participer à la fois en plein cœur du monde économique, à la fois au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau un petit peu social, pas que l'emploi là-bas, derrière tout cela. Et du coup, vous avez affaire à la fois à des chefs d'entreprise et dirigeants des entreprises qui ont envie de s'impliquer. En face, vous avez des futurs collaborateurs qui ont envie de travailler, envie de s'insérer, envie de participer à cette vie économique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, toutes les contraintes, les événements, les guerres, l'énergie, comment vous ressentez le moral de part et d'autre de ce milieu-là?
Alors, je dirais que les responsables d'entreprise restent confiants, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une petite baisse de régime. Quand je dis baisse de régime, ça pourrait être assimilé à une forme de lassitude en matière de recrutement, de miser sur un collaborateur qui ne va pas s'inscrire dans la durée ou qui a perdu l'habitude de se lever le matin, qui a perdu l'envie du travail, qui a perdu le goût de l'effort, qui a une correction sociale érodée. Il peut y avoir de la lassitude. Mais cette lassitude, elle est quand même enrobée de cette confiance, et heureusement que les responsables d'entreprise sont confiants, sinon il y a longtemps qu'ils auraient mis la clé sous la porte.
Globalement, vous restez optimiste quand même pour le monde économique?
Pour le monde économique?
Ouais.
Alors, je vais vous faire là encore, je vais vous dire, je suis un optimiste bien informé, donc un pessimiste. non, optimiste, oui. Mais optimiste avec raison. Les raisons, c'est quoi? C'est une situation économique difficile, parce qu'elle dépend beaucoup de la mondialisation de nos marchés, elle dépend beaucoup de la géopolitique, elle dépend aussi de façon plus interne du remboursement des prêts PGE qu'ont pu souscrire des entreprises. Donc effectivement, il y a des difficultés qu'il ne faut pas occulter. Mais si on s'arrêtait simplement à ça, ces mêmes difficultés, elles existaient sous des formes différentes il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc chaque fois, on arrive à passer au-dessus de cette lame de fond qui arrive.
Je voulais revenir, avant de finir l'émission, sur votre aventure dans notre télé ligérienne TL7, pour laquelle vous êtes chroniqueur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous participez à cette aventure et qu'est-ce que ça vous apporte, vous?
Alors, c'est une aventure qui s'inscrit dans la durée. C'est une aventure parce qu'une aventure s'est fait aussi découverte, et que là ça m'a permis effectivement de découvrir le monde de la télé, d'un plateau, de caméra, de rencontrer une équipe de chroniqueurs avec quelques piliers qui sont toujours là avec moi depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Comment ça s'est fait? Là encore, une histoire de rencontre. Tout est fait de rencontre. Voilà un monsieur que certains de vos auditeurs connaissent, qui est Max Rivière, qui avait été désigné pour animer Loireco de mémoire, je dirais en 2014 ou 2015, et qui a voulu s'entourer de chroniqueurs qu'il connaissait ou qu'il appréciait. Max Rivière, c'est la littérature qui nous avait permis de nous rapprocher. Voilà, je suis devenu chroniqueur. Ça m'apporte quoi comme satisfaction? Un, on se prend au jeu. On se plaît à faire de la télévision, il faut être honnête. Deux, ça me permet de rencontrer beaucoup de responsables d'entreprise et là encore, de connaître leur intimité, si je puis dire, celle qu'ils dévoilent, c'est-à-dire leur état d'esprit. Et je suis toujours, cette émission me permet aussi d'entretenir et d'aiguiser ma curiosité et de découvrir des hommes et des femmes que l'on connaît avec leur casquette chef d'entreprise et que là, on découvre avec une double casquette, qui est celle de responsable d'entreprise, mais aussi la personne qu'ils sont, les pères et mères de famille qu'ils sont, leurs envies, leurs émotions, c'est voilà. C'est pour ça que je dis que c'est, vous l'avez souligné vous-même, c'est une belle aventure et vous savez, la télé, hein, c'est comme à TF1, vous savez pas si vous serez à la grille de rentrée. Là pour 2023, j'y suis encore. Voilà, mais c'est une belle aventure et c'est une aventure voilà dans laquelle je prends un plaisir délicat.
Avant de finir l'émission, comme d'habitude, je demande à mon invité de me faire un petit cadeau et de nous en expliquer la signification.
Alors, il faut déjà que ce soit un cadeau.
Il faut déjà que ce soit un cadeau. Est-ce qu'un cadeau demandé est un cadeau?
Ah, et voilà, il faut, voilà. Alors, après, vous savez, quand vous étiez plus jeune, vous aviez sur les fêtes foraines les petits distributeurs, c'était marqué plaisir d'offrir. Ouais. Donc là, vous avez plaisir d'offrir. Donc, je vous ai apporté un porte-clés sur lequel il n'y a pas encore de clé. Je vous offre celui-ci, Julien, parce qu'il est, il est sobre, épuré. Il rappelle aussi, d'une certaine façon, ce que l'on travaillait ici, ce que l'on travaille aussi toujours avec la mécanique de précision dans la Loire, c'est-à-dire une matière froide qui est l'acier. Mais même si c'est une matière froide, on peut en faire de très beaux objets. Et surtout, je vous l'offre bien volontiers parce que vous y accrocherez ce que vous voulez. Et surtout, il ne tient pas de palace. Et c'est offert de bon cœur.
Merci beaucoup, Laurent. Merci pour votre ouverture et à très bientôt.
Merci à vous,
merci.
Julien.
Merci. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.